Je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Nombres, au chapitre 10. Nous allons regarder ensemble la dernière partie, la deuxième partie du message que nous avons commencé la semaine dernière. Nous allons relire les versets 29 à 32. Nombres, chapitre 10, versets 29 à 32. Alors, pendant que vous cherchez, bien, je veux remercier ceux et celles qui m'ont envoyé des marques d'affection à travers différents messages, aussi pour la surprise qu'on m'a fait jeudi à la réunion de prière. Donc, ça m'a vraiment touché et je tiens à vous remercier. Alors, ça devrait arriver plus souvent à l'anniversaire, non? Tous les mois. Tous les mois, ce serait bien. Voilà. Nombre chapitre 10, à partir du verset 29, nous lirons 29 à 36. Moïse dit à Hobab, fils de son beau-père, Madianite Réuel, « Nous partons pour le pays que le Seigneur nous a promis de nous donner. Viens avec nous, nous te ferons participer au bienfait que le Seigneur veut accorder à Israël. » Et le bienfait, un synonyme pour le mot bienfait, c'est bénédiction. Non, répondit Hobab, je préfère retourner dans mon pays et ma famille. « Je t'en prie, reprit Moïse, ne nous abandonne pas. Tu connais les endroits du désert où nous pourrons installer notre camp. Tu seras notre guide. Si tu nous accompagnes, nous te ferons participer aux bénédictions que le Seigneur va nous accorder. » Les Israélites quittèrent la montagne du Seigneur pour une marche de 3 jours. Le coffre de l'Alliance du Seigneur les précédait pour leur trouver un endroit où ils pourraient s'installer commodément. Le jour, la fumée du Seigneur planait au-dessus d'eux, lorsqu'il levait le camp, au moment du départ du coffre sacré, Moïse s'écriait, « Dresse-toi, Seigneur, afin que tes ennemis soient dispersés et que tes adversaires s'enfuient devant toi. » Et lorsqu'on a déposé le coffre, Moïse s'écriait, « Seigneur, reviens prendre place au milieu des familles innombrables d'Israël. » Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est la prière de Moïse pour être la nôtre ce matin. On pourrait dire, « Seigneur, reviens prendre place au milieu de ton Église aujourd'hui, afin que tu puisses régner et que nous puissions continuer à te voir accomplir des miracles et des prodiges au milieu de ceux qui t'appartiennent. Amen. Dans ce passage, Moïse, nous avons vu que les Israélites, s'apprêtent à quitter le désert du Sinaï pour le pays de Canaan que le Seigneur avait promis de leur donner. Et dans la première partie, la semaine dernière, nous avons examiné l'invitation que Moïse a faite à Hobab à se joindre au peuple de Dieu afin de pouvoir participer aux bénédictions et aux promesses que Dieu a en réserve pour tous ceux qui lui appartiennent. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous la dernière partie, c'est-à-dire les promesses que Dieu a en réserve pour tous ceux qui lui appartiennent. Alors, dans la première partie, on avait mentionné dans un premier temps que nous retrouvions 3 mots extrêmement importants dans ce passage qui se trouvent au verset 29. Les 3 mots, c'est « Viens avec nous ». Et ce matin, c'est encore une invitation que Dieu fait à tous et chacun, viens avec nous. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et Jésus a dit, je suis venu pour faire la volonté du Père. Alors, je viens pour faire la volonté du Père. Et quand le Seigneur nous demande, lorsqu'il nous interpelle, que ce soit dans un appel au salut ou dans un appel à la sanctification, et qu'il nous dit, venez à moi, eh bien, c'est sur comme Jésus, c'est pour faire sa volonté. Le salut, c'est pas quelque chose qui est léger, c'est pas quelque chose qui est à prendre avec légèreté, c'est vraiment quelque chose de sérieux parce que c'est ce qui décide où nous allons passer l'éternité. Mais en même temps, eh bien, Dieu a fait le premier pas, et quand on fait ce pas pour accepter le Seigneur, recevoir Jésus comme Seigneur, c'est aussi parce qu'on a pris la décision de vouloir faire sa volonté. Amen. C'est vraiment, vraiment important. Alors, viens avec nous, verset 29, on va faire un bref résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, Moïse y vient avec nous. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes un peuple spécial aux yeux de Dieu. Ils étaient le peuple que Dieu avait mis à part parmi tous les autres peuples. C'était un peuple saint, un peuple appelé à se consacrer à leur Dieu. L'Église, c'est la même chose. Elle est sauvée, elle est justifiée, elle est sanctifiée à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et elle est aussi appelée à être un peuple saint, un peuple appelé à se consacrer à son Dieu. C'est eux que l'Éternel avait choisi pour qu'ils lui appartiennent parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Et frères et sœurs, l'Église, c'est la porte d'entrée que Dieu a laissée pour permettre aux gens d'entrer au ciel à travers la personne de Jésus-Christ. Jésus dit, « Je suis la porte ». Et cette porte, c'est à travers l'Évangile qu'on entend Et quand je dis que c'est à travers l'Église, c'est parce que c'est l'Église qui a reçu l'Évangile, c'est l'Église qui a reçu le mandat d'annoncer cet Évangile. L'Église est aussi un peuple spécial pour Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Nous sommes spéciaux, c'est-à-dire précieux à ses yeux, à cause du prix que cela a coûté pour que nous racheter et pour nous purifier. Moïse invite Hobab à venir avec eux, et non seulement parce qu'ils sont un peuple spécial aux yeux de Dieu, mais aussi, on l'avait vu la semaine dernière, parce qu'ils vont habiter dans un endroit spécial. Cet endroit, eh bien, c'est le pays que Dieu a promis de leur donner. Exode chapitre 3, verset 8, il est écrit, « Un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. » C'était un pays où les attendaient de grandes bénédictions et de nombreuses victoires. Frères et sœurs, rappelez-vous que nous nous dirigeons, nous aussi, vers un endroit spécial. Nous nous dirigeons vers un endroit où se trouve, où nous trouverons la paix, où nous trouverons la joie et l'absence de péché. Un pays où nous attend de grandes et riches bénédictions, où les problèmes et les soucis de ce monde ne peuvent pas nous suivre. Non seulement Moïse va inviter Hobab à venir avec eux parce qu'ils sont un peuple spécial et parce qu'ils vont habiter aussi dans un endroit spécial, mais aussi parce qu'ils voulaient qu'ils bénéficient du même privilège qui est accordé aux enfants de Dieu. Moïse, en tant que privilégié, pouvait dire à Hobab, dans ce qu'on vient de lire, « Viens avec nous, tu participeras aux bénédictions que le Seigneur veut accorder à Israël. » Autrement dit, « Viens avec nous et en tant que membre du peuple de Dieu, tu découvriras le grand privilège que tu as. » Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez la puissance qu'on a dans la prière en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que vous réalisez la puissance qu'on a dans la prière avec les enfants de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu? Vous regardez Élie. Élie, ce n'était pas un superman. Hein? Élie, c'était un homme comme vous et moi. Et pourtant, il a prié pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et quand il a recommencé à prier pour qu'il pleuve, il a commencé à pleuvoir. Il y a quelqu'un dans la prière qui a permis à Dieu de faire reculer le soleil. Et quand vous lisez comme il faut, il a ordonné à Dieu de faire reculer le soleil. Frères et sœurs, il y a un pouvoir dans la prière. Et pour que Dieu puisse répondre à nos prières, il faut qu'on marche en nouveauté de vie. Il faut marcher comme Dieu nous demande de marcher. Et je ne dirais pas que Dieu est à nos pieds. On ne mettra jamais Dieu à nos pieds. Mais Dieu tend l'oreille d'une manière tout à fait spéciale quand il voit un de ses enfants qui prie pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie des autres. On a un Dieu extraordinaire. Et on voit Moïse ici. Moïse, c'est ce qu'il dit, hein? Il prie. Moïse, il prie. Il prie dans ce passage. Il dit, viens avec nous parce que Dieu va t'accorder des bénédictions. Il connaissait les bénédictions que Dieu donnerait. Pardon. Frères et sœurs, nous avons reçu l'ordre d'inviter les gens à venir avec nous pour qu'ils puissent participer aux bénédictions que le Seigneur veut vous nous accorder. Je pourrais demander à quelques personnes de se lever ce matin et partager 2-3 bénédictions que Dieu vous a accordées cette semaine. 2-3 bénédictions. Frères et sœurs, on est tellement dans un système routinier qu'on oublie que jour après jour, Dieu nous donne des bénédictions. Simplement, le fait qu'on n'est pas malade un matin. Quelle bénédiction, quelle grâce que Dieu nous accorde. On est dans un corps mortel qui est sujet à vieillir, qui est sujet à rire, qui est sujet à mourir, mais qui est aussi sujet avant de mourir à nous faire souffrir dans la maladie. Et c'est une grâce, on peut rendre grâce à Dieu parce qu'on est en santé cette semaine. Et ça nous permet, quand on rend grâce à Dieu qu'on est en santé, eh bien, ça nous permet de voir qu'on est des privilégiés pour l'instant. Et ça nous permet aussi d'avoir un fardeau pour les frères et sœurs qui ne sont pas en santé et pour prier pour eux. Oui, toutes sortes de bénédictions. Merci Seigneur parce que j'ai eu mes 3 repas par jour cette semaine. Pour certains, même 4 par jour. Alors que dans d'autres pays, il y a des frères et sœurs qui souffrent. Alors, c'est une bénédiction de manger à notre faim, et ça nous permet en même temps de voir combien on est privilégiés et de prier le Seigneur, de dire, Seigneur, merci parce que tu pourvois vraiment dans ce domaine-là. Et ça nous permet de commencer à prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas nécessairement tout ce qu'on a à manger jour après jour. Alors, Moïse voulait que Hobab participe aux bénédictions que le Seigneur veut accorder à ceux qui appartiennent au Seigneur. Viens avec nous, verset 29b à 32. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et frères et sœurs, vous êtes venus à Jésus-Christ et il y a une promesse qui est claire. Dieu veut vous faire du bien. Amen. Dieu veut vous faire du bien. Mais avant de vous faire du bien, c'est possible qu'il vous fasse du mal. Il y a des choses à chasser, hein? Il y a des choses à chasser. Des fois, ça fait mal, hein? Oui. prend pas grand-chose, des fois, un petit écharpe entre les ongles ici, ça fait mal, hein? Il faut aller la chercher. C'est pas grand-chose, c'est tout petit, hein? Ça prend pas une grosse histoire, hein? Une petite chose. Et des fois, il y a des petites choses qu'on garde, et Dieu, pour nous faire du bien, ben, il va nous amener, il va nous permettre que nous puissions souffrir pour pouvoir compter sur lui, réaliser où est, qu'est-ce qui nous fait mal, la nature de notre mal, et faire en sorte de chasser ce mal pour nous faire du bien, et ce, dans un but, uniquement toujours pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il n'y avait aucun espoir pour Hobab à moins d'accepter l'invitation de Moïse de faire partie de la nation d'Israël. Moïse l'invite donc à se joindre à la famille de Dieu. Et frères et sœurs, en tant qu'Église, il n'y a aucun espoir de salut pour quiconque, à moins que les gens reçoivent l'invitation que Dieu a donnée à travers son Évangile à son Église, de faire partie, de rejoindre la famille de Dieu. Nous avons besoin d'entendre le même message aujourd'hui, car il n'y a aucun espoir de salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des privilèges qui attendent ceux qui font partie de la famille de Dieu. Voilà pourquoi Moïse dit à Hobab, « Joins-toi à nous, nous te ferons du bien. » Et en fait, Moïse, on l'avait vu la semaine dernière, il avait deux choses qu'il était en train de dire ici à Hobab, « Tu as besoin de nous, tu as besoin de nous. » On lit le texte ici, Moab, c'est quelqu'un qui était né dans la région, il connaissait parfaitement les points d'eau, il connaissait parfaitement le chemin pour se rendre là où Dieu les conduisait. Et il dit, Moab, tu as besoin de nous, et nous on a besoin de toi parce que tu connais la région. Mais si Moab veut être sauvé et profiter des bénédictions du Seigneur, alors il va devoir aller avec Israël. Et c'est la même chose pour les gens aujourd'hui. Les gens ont besoin d'être incorporé dans la famille de Dieu à travers l'Église. Et vous savez, les chrétiens Robinson Crusoe, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Les gens qui quittent une Église à un moment donné pour rester tout seuls chez eux, je ne les ai jamais vus progresser dans leur foi. Hein? L'Église, elle est là d'une manière bien particulière. Je le répète, je l'ai dit depuis 18 ans, l'Église, c'est la meilleure institut biblique qu'une personne peut fréquenter. C'est à travers l'Église que Dieu nous forme. L'Église, je le répète, quand on rentre dans l'Église, on ne rentre pas dans le paradis. On rentre avec des gens qui sont faibles, d'autres qui sont plus forts. D'autres, il y a des chrétiens de nom, il y a des chrétiens de cœur. Et c'est à travers ça que Dieu nous teste, c'est à travers ça que Dieu nous fait grandir. Je dis encore une fois ce que j'ai dit depuis 18 ans. Si vous passez à travers l'Église, vous pouvez passer à travers n'importe quoi. Ouais. Parce qu'on ne s'attend pas des fois à recevoir des choses dans l'Église. Et c'est à travers ça que Dieu nous forme. Maintenant, je ne suis pas en train de décrier quoi que ce soit. Je viens simplement vous rappeler que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas mieux. C'était le peuple de Dieu qui salit le nom de Dieu, qui salit la réputation de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu a continué avec lui. De la même manière, ce qui se passe dans le monde, à travers les églises, à travers tous les courants de pensée, Dieu n'abandonne pas son Église. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et Dieu accompagne, soutient ceux qui lui appartiennent. Amen. Nous avons besoin de toi, verset 31. Pourquoi avons-nous besoin d'eux? Lorsque Dieu sauve quelqu'un, il reçoit son esprit. Avec l'esprit de Dieu viennent les dons de l'esprit. Nous savons qu'en chacun, l'esprit se manifeste par un don pour le bien de tous et qu'il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Alors, il faut arrêter de prier pour parler en langue, pour recevoir le don de guérison, pour recevoir ci et ça. C'est Dieu qui donne les dons comme il veut. Alors, on n'a pas à forcer la main, c'est Dieu qui donne les dons comme il veut. C'est pas moi qui le nie, là. Donc, il a dit, c'est Paul qui l'a dit à Corinthiens chapitre 12, versets 7 et 11. Il y a des gens qui cherchent des dons bien particuliers, mais c'est Dieu qui donne les dons. Et le problème avec ce courant de pensée-là, quand on n'a pas un don qu'on demande à Dieu, il y a des gens qui se sentent coupables. Mais on n'a pas à être coupable, c'est Dieu qui distribue comme il veut parce qu'il connaît les besoins de l'Église. C'est important, ça. Ça, c'est vraiment important de réaliser ça. Moi, je me suis jamais senti coupable parce que j'avais pas reçu tel don ni tel don. C'est Dieu, j'ai compris à partir du début de ma vie chrétienne, c'est Dieu qui donne comme il veut. Amen. Et Dieu ne nous doit rien. Alors, c'est une grâce, encore une fois, qu'il nous accorde un don, surtout celui qu'on ne lui a pas demandé. Parce qu'il sait quel don nous donner pour qu'il puisse finalement être glorifié davantage autrement que si c'était nous qui choisissions le don, parce que souvent choisissons un don, eh bien, c'est nous qui nous glorifions. Combien de fois je vois des pancartes, des annonces d'église qui disent « Venez voir un tel, c'est lui qui guérit. » Il n'y a personne qui guérit en dehors de Jésus. Hein? Ouais. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui va nous ressusciter. Amen. Nous avons besoin de toi. Quand Dieu sauve quelqu'un et l'envoie dans notre communauté, ce n'est pas un accident. Il l'envoie afin qu'il puisse remplir une tâche au sein de l'Église qu'aucun autre ne peut faire. Nous avons besoin que le don de Dieu que Dieu lui a donné, soit utilisé si nous voulons devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. Et maintenant, là, c'est pas moi qui va parler, je vais citer l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4. Chacun de nous a reçu un don particulier. Et il dit que ce don particulier que nous avons reçu, il se manifeste après le baptême. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres encore d'être évangélistes, pasteurs ou enseignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, pour faire progresser le corps de Christ dans la foi. Et regardez ce qu'il dit par rapport à ces dons-là. Nous parviendrons ainsi tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. Et nous deviendrons des adultes dans le développement, dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Lorsque chaque partie agit comme elle se doit, dit l'apôtre Paul, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Nous avons besoin de ce que ceux qui se joignent à l'Église apportent avec eux, ce que les gens qui se rajoutent à l'Église, on a besoin des dons que Dieu leur a donnés pour être en mesure de nous aider à devenir ce que nous voulons. On est tous unis les uns les autres. La grosse orteille a besoin de la petite orteille, et l'oreille a besoin de la tête pour tenir en place, l'œil a besoin de la tête pour tenir en place, et on sait bien que la tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on a besoin tous des membres les uns des autres, et être unis parfaitement pour ne pas avoir de l'air des handicapés spirituels, mais de pouvoir marcher ensemble là où Dieu nous appelle. Par conséquent, nous devons apprendre à créer un environnement où les gens peuvent exercer leurs dons au sein de l'Église. Nous devons donc les encourager à grandir dans le Seigneur et à devenir tout ce que le Seigneur veut qu'ils soient pour le bénéfice de l'Église. Nous avons besoin de permettre aux gens de devenir ce que le Dieu qui les a sauvés veut qu'ils soient. Est-ce que vous êtes amen à ça? Oh, aïe, 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 aïe. C'est important, frères et sœurs. L'Église, là, c'est pas une organisation d'hommes. C'est un organisme vivant dont Jésus-Christ est la tête. Ouais. Il peut arriver que certains d'entre nous peuvent se sentir menacés par cela. Ils peuvent avoir l'impression que l'emprise qu'ils ont sur l'Église est en train de leur glisser dans les doigts lorsque de nouvelles personnes se joignent à l'Église. Ou lorsque des jeunes commencent à grandir dans leur foi et à s'impliquer davantage dans l'Église. Ça m'a béni d'entendre la présidence ce matin. Dieu, il y a une relève dans l'Église. Dieu est en train de former des jeunes. Ouais. Et des vieux comme moi, à un moment donné, eh bien, on va avoir besoin de quitter la place. Ouais. Pas besoin, moi, je m'accroche pas à mon poste. Je sais qu'à un moment donné, rendu à 69 ans, je vais devoir partir. Ouais. Et ça me bénit de voir qu'il y a une relève dans l'Église. Ça me bénit de voir qu'il y a de la vie à travers ces jeunes. Et on a besoin de les encourager dans la prière. On a besoin de prier les uns pour les autres, pour qu'on soit vraiment, que Dieu puisse utiliser nos dons à travers les dons qu'il nous a donnés. Il arrive que certains oublient que l'Église qu'ils fréquentent n'est pas leur Église, mais celle du Seigneur, et que lorsqu'ils voient quelqu'un qui est doué pour accomplir une certaine tâche, nous devrions le laisser exercer ce que Dieu, qui l'a sauvé, veut qu'il soit. Il est arrivé dans le passé que des gens ne voulaient pas aider un autre croyant à grandir dans sa marche avec le Seigneur, parce qu'ils étaient jaloux de leurs dons et de leurs capacités. C'était des personnes qui avaient de graves problèmes spirituels. Ces gens étaient animés de l'esprit de Diotrephe que l'apôtre Jean dénonce au verset 9 dans sa troisième épître. Ils sont un danger pour l'Église parce que ce qu'ils cherchent au plus profond d'eux-mêmes, c'est de les décourager et les chasser de l'Église. Et je vais prêcher dans une Église où il y avait plus de 100 personnes. Et ils sont tombés à 5 personnes parce qu'il y en a un qui s'est entêté à vouloir faire fonctionner l'Église comme lui voyait qu'elle devait fonctionner. 5 personnes qui restaient. Et cette personne qui a chassé tout le monde, eh bien, se réjouissait et était convaincu qu'elle faisait la volonté du Seigneur. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que cette personne-là, elle est morte. Elle rendra des comptes au Seigneur. Et aujourd'hui, cette Église-là, presque 100 personnes. Frères et sœurs, l'Église, c'est pas notre Église. Honnêtement, cette Église-là, elle fonctionne pas comme moi je voudrais qu'elle fonctionne. Mais je me soumets à la volonté du Seigneur. C'est pas mon Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et on a besoin d'être sensible à la direction que Dieu veut donner à son Église. Pardon. Pouvons-nous dire en tant qu'Église, viens avec nous et nous te ferons du bien. Viens avec nous et nous te soutiendrons. Viens avec nous et nous t'aiderons à atteindre ton plein potentiel dans le Seigneur. Viens avec nous et tu ne regretteras de ne pas avoir rejoint cette église avant. Est-ce que nous sommes en mesure de dire ça à quelqu'un qui rentre ici, qui décide qui veut adopter notre église? Peu importe l'église, il y a toujours place pour faire mieux dans ce domaine. Mais là, je suis pas en train d'identifier les églises, je vous ai pas donné de nom, mais je vois ce qui se passe autour, je vois ce qui se passe à l'extérieur. Viens avec nous et prends part aux promesses de Dieu. Et là, on commence le message de ce matin, on a résumé la partie de la semaine passée. Verset 29, Moïse dit à Obab, « L'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Moïse invite donc Obab à partager toutes les belles promesses que Dieu a promis d'accorder à Israël. » Valentin a parlé de promesses ce matin, je vais vous en donner quelques-unes. Lorsque nous regardons quelqu'un et que nous lui disons, « Viens avec nous », nous l'invitons, frères et sœurs, à prendre part aux grandes promesses de Dieu. Voici les promesses qui sont nôtres et que nous pouvons partager avec les autres. Viens avec nous et reçois en partage une demeure que Dieu a promis de nous donner. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez que le Seigneur est monté au ciel et qu'il a dit qu'il était en train de nous préparer une place? Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Quel privilège on a! Tout comme le désert n'était pas la destination finale pour Israël, ce monde n'est pas la dernière destination pour l'Église. Nous ne sommes que des passagers sur terre. Nous sommes des étrangers et des exilés. Frères et sœurs, est-ce que nous vivons pour l'instant comme des étrangers et des exilés sur la terre? Ou si nous vivons comme si nous étions pour passer l'éternité sur la terre? Lorsque nous quitterons cette terre, ce sera pour être avec le Seigneur Jésus. Nous avons un petit aperçu de ce à quoi ressemblera ce nouveau pays dans le livre d'Apocalypse, ce que Dieu est en train de nous préparer. Permettez-moi de vous rappeler quelques passages. Dans les chapitres 4 et 5, nous apprenons qu'il y a un roi qui est assis sur un trône. C'est un royaume, nous avons un roi qui va siéger sur un trône. La Bible nous dit qu'il a l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Son trône est entouré d'un arc-en-ciel qui brille comme une émeraude. Devant le trône, il y a une mer de verre aussi claire que du cristal. C'est un pays où les anges et les rachetés loueront le Seigneur, nous dit l'apôtre Jean. C'est un pays merveilleux, Apocalypse 21-22. Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Peu importe la langue que nous parlons, elle ne contient pas suffisamment de mots pour décrire cette ville que Dieu appelle la Nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel, envoyée par Dieu, où Dieu demeurera parmi les hommes. Frères et sœurs, Dieu va habiter avec nous. On va le voir, le temps ne comptera pas, on va le voir constamment. Vous imaginez, Dieu est au ciel. Il va habiter sur cette nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, avec son peuple. Et on va le voir face à face. La Bible nous dit qu'autour du trône, il y aura des dizaines de milliers d'anges, ainsi que les rachetés, qui loueront, adoreront le Seigneur. Les frères et sœurs, on ne passera pas notre temps à chanter à louer, parce que la Bible nous dit qu'on va régner avec lui. Régner, ça veut dire qu'on est appelé à faire quelque chose. Est-ce que vous imaginez ce que le Seigneur est en train de nous préparer? Est-ce que vous êtes en train de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, frères et sœurs? Parce qu'on en a parlé mercredi à l'étude biblique. Quand un chrétien meurt, les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui et qu'il a réalisées sur la terre, le suivent. Quel sera le poids de vos bagages quand vous allez monter au ciel pour rendre la rencontre du Seigneur? C'est pour moi qu'il dit, c'est l'apôtre Jean dans son Apocalypse qui dit, nous mourons et nos œuvres nous accompagnent. Ça, c'est les trésors qui sont appelés à durer pour l'éternité. Quels sont les trésors qu'on s'amasse pour l'éternité, frères et sœurs? Ouais. C'est un pays merveilleux. Cette ville, elle resplendit de la gloire de Dieu. Elle brille d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle a une muraille avec 12 portes et 12 anges gardent les portes. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle, vous vous imaginez? La rue de la ville était d'or, plus pure, transparente comme du verre. On ne peut pas trouver ça sur la terre. C'est inimaginable. On n'a pas des paroles pour pouvoir exprimer ce qui est décrit dans le chapitre 21 et 22. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lampe. La présence de Jésus-Christ et de Dieu le Père, ainsi que la présence des saints de Dieu, fera du ciel une terre d'une beauté remplie de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, non seulement c'est un pays merveilleux, mais c'est aussi un pays de bien-être. Apocalypse 21, verset 1 à 4, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur, car les choses anciennes sont passées. Les problèmes et les fardeaux de la vie qui nous troublent ici-bas n'auront aucun effet là-haut. Ils seront bannis à la porte. Rien d'impur n'entrera dans cette ville. Seuls ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, le livre qui appartient à l'agneau, seuls ces noms qui sont inscrits dans ce livre auront l'autorisation de rentrer dans cette ville. Et je vous pose la même question que la semaine dernière, ce matin en se parlant, avez-vous l'assurance que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Viens avec nous, dit Moïse, Dieu a promis de nous donner de l'espoir. Lorsque Moïse dit à Obab, le Seigneur a dit, je vous le donnerai au verset 29, il est en train de lui dire, Dieu est en train de nous faire une promesse, viens avec nous et mets ton espoir dans les promesses du Seigneur. Obab, l'avenir est rempli d'espoir, car le meilleur est à venir pour ceux qui viennent avec nous. Amen. Oui. Oui. La vie, c'est plein d'espoir quand vous regardez au Seigneur. Si vous regardez au monde, vous êtes découragé. Mais quand vous regardez aux promesses de Dieu, mais vous êtes encouragé. Parce qu'il y a de l'espoir. Le Seigneur lui-même nous a promis qu'il y a de belles choses qui nous attendent dans le futur. C'est là l'espoir du croyant. Ce monde est un lieu de chagrin, d'épreuves et de tourments de toutes sortes. C'est ce que disait Job à son époque. L'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme. Sa vie sera donc brève et remplie de tourments. Comme la fleur, il s'épanouit, puis se fane, comme l'ombre qui passe, il est bientôt parti. Ici-bas, nous sommes confrontés à la maladie, la mort, la séparation d'avec nos bien-aimés et la misère. Mais Dieu prépare, frères et sœurs, des jours meilleurs. Laissez-moi vous dire ce que Dieu a prévu pour vous si vous êtes sauvés ce matin. Dieu a prévu un jour de repos pour vous. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Il y a un jour de repos pour l'enfant de Dieu. Lorsque vous quitterez cette terre, vous déposerez une fois pour toutes les fardeaux de cette vie et vous entrerez dans un lieu de paix, de repos et de sécurité où vous ne souffrirez plus jamais. Ce jour de repos, c'est un jour semblable au repos du Seigneur, le septième jour qui reste à faire aux membres du peuple de Dieu. Certains d'entre vous ont livré de nombreuses batailles dans le passé et ont payé un certain prix pour vivre pour le Seigneur. Vous avez porté le fardeau de l'Église et de votre famille, mais un jour viendra où vous pourrez déposer ces fardeaux et vous envoler vers la gloire céleste. Non seulement Dieu a prévu un jour de repos éternel pour vous, pour moi, mais Dieu a prévu aussi un jour où nous serons tous réunis ensemble. Il y en a parmi vous qui ont vu la mort leur enlever ceux qu'ils aiment. Ce fut un jour difficile pour vous quand Dieu a appelé cet être que vous aimiez à entrer dans la gloire céleste. Les mois et les années ont passé, mais ils n'ont en rien diminué la douleur et le vide que vous ressentez dans votre cœur. Je tiens à vous rappeler que Dieu a prévu un jour où nous les retrouverons à nouveau. Amen. On va les retrouver à nouveau, ces gens-là. Ouais. Car Dieu a prévu un grand jour de retrouvailles. Il est important que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il viendra un jour, et c'est pour bientôt, où vous reverrez non seulement ceux qui vous ont devancé dans cette vie et qui se trouvent maintenant dans la présence de Dieu, mais allez voir Jésus être avec vous pour l'éternité. C'est ce même Jésus qui est mort pour vos péchés sur la croix, ce Jésus qui vous a sauvés par grâce, ce Jésus qui a effacé vos péchés par son sang précieux. Frères et sœurs, ce Jésus, nous le verrons un jour face à face. Amen. Ouais. Face à face. C'est lui qui nous accueille au ciel, comme il est fait avec Étienne. Et à chaque fois qu'il va ouvrir les bras, on va y voir les plaies dans ses mains. Et ça va simplement nous rappeler combien on est reconnaissant d'avoir été accepté par le Seigneur pour l'éternité. Non seulement Dieu a prévu un repos éternel, il a aussi prévu un jour où nous serons tous réunis. Mais Dieu a prévu un jour où nous recevrons notre récompense. Je veux vous rappeler que rien de ce que vous avez accompli a échappé au regard de Dieu. Il a vu tout ce que vous avez fait et il en a pris bonne note. Il se rappelle de chaque prière que vous avez faite. Il connaît le nombre de repas que vous vous êtes privés pour passer du temps dans la prière. Il connaît chaque euro que vous avez donné pour l'avancement de son royaume dans la joie. Il a vu chacun des gestes charitables que vous avez faits pour les plus démunis et chaque tasse d'eau que vous avez donnée en son nom à ceux qui en avaient besoin. Car à chaque fois que vous avez donné une tasse d'eau, c'est comme si vous l'aviez donné à Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu voit tout. Un jour vient où vous entendrez Jésus dire, « C'est bon, C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la présence de ton maître. Frères et sœurs, la qualité de l'œuvre de chacun apparaîtra au jour du jugement qui la révélera. En effet, ce jour se manifestera dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre, pardon, de chacun pour montrer ce qu'elle vaut. Si quelqu'un bâtit sur les fondations une œuvre qui résiste au feu, la Bible nous dit qu'il recevra sa récompense. Par contre, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il perdra sa récompense. Cependant, lui sera sauvé, dit l'apôtre Paul, mais comme s'il avait traversé le feu pour en échapper. Dieu a prévu un repos éternel pour nous. Il a prévu un jour où nous serons tous réunis ensemble. Il a promis de nous donner de l'espoir et une récompense, mais il a promis aussi de nous soutenir et de nous aider le temps que nous sommes sur la terre. Verset 29, la fin du verset 29. Moïse et Aobab, viens avec nous, non seulement nous te ferons du bien, mais l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. En d'autres mots, Moïse est en train de dire à Aobab, le Seigneur ne nous a pas rachetés pour nous abandonner dans ce désert. Il a promis qu'il nous accompagnera, qu'il nous bénira et qu'il nous aidera à entrer dans la terre promise. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire parce que Dieu vit. Frères et sœurs, Dieu vit au jour le jour avec nous. Dieu sait quel péché que vous allez commettre le mois prochain, dans deux mois, dans un an. Mais Dieu vit pas dans un mois, dans trois mois, dans un an. Dieu vit au jour le jour, il nous accompagne. Il nous accompagne. Et c'est au jour le jour qu'il travaille dans nos vies pour que son œuvre puisse progresser à travers nous. Mais il sait déjà d'avance ce qui va se passer. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, ici, dans une autre église. Il savait, quand il a pris Gédéon, puis qu'il lui dit, « Hey, toi, vaillant héros, hein, salut, je te salue, vaillant héros. Ah » oui. Gédéon était caché, il était un gros peureux, Gédéon. Hein. Il était caché, lui, il avait peur des Madianites, il était caché. Ouais. La moudre du grain, parce qu'il avait faim. Et Dieu savait, il l'a choisi pour faire remporter des victoires à Gédéon. Mais il savait que Gédéon finirait sa carrière à faire des idoles, à fabriquer des petites statues, des idoles pour que les gens les adorent. Il savait, Dieu. Il n'est pas disqualifié Gédéon pour autant. Hein? Parce que Dieu vit, lundi, c'est avec Gédéon. Ce qui va se passer dans 5 ans avec Gédéon, ce sera une autre histoire. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Moi, je vis avec toi aujourd'hui. Ça, c'est extraordinaire que Dieu. C'est même pas nous qui devons nous adapter avec Dieu. C'est Dieu qui s'adapte à nous, quoi. Jacques, aujourd'hui, tu vas prêcher. Aujourd'hui, je te confie ça, Jacques. Mais voilà. Demain, c'est une autre chose. Et si tu trébuches, Jacques, demain, ma main sera tendue pour que tu te relèves. Tu as juste à confesser ton péché. Confesse ta faute. Dieu vit au jour le jour avec nous. C'est extraordinaire, ça. Pourtant, il est dans l'éternité. Le temps compte pas pour lui. Avez-vous pensé quel Dieu on sert, frères et sœurs? Avez-vous pensé? C'est magnifique. Parce que si Dieu devait vivre en fonction de ce qu'on va faire, non seulement aujourd'hui, mais ce qu'on va faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, on est tous disqualifiés pour le servir. Hein? Ah ouais. Et moi, je ne perdrai pas ma réputation avec toi, mon enfant. Hein? Parce que je sais comment tu sais ce que tu vas faire plus tard. Tu finiras bien par me renier. Hein? Mais au jour le jour, Dieu veut nous utiliser tous et chacun pour sa gloire. On est tous qualifiés en Jésus-Christ aujourd'hui pour servir Dieu, pour sa gloire. Ce qui nous attend demain, c'est autre chose. À chaque jour, il suffit sa peine. Ce qui nous attend après-demain, c'est autre chose. Ouais. Quel Dieu merveilleux qu'on sert. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur dans l'Église pendant des années et qui ont abandonné carrément le Seigneur un jour. Et pendant qu'ils étaient disponibles pour le Seigneur, Dieu les a utilisés pour sa gloire. Quel Dieu merveilleux nous servons, frères et sœurs. Pardon. Il a promis qu'il nous accompagnera, qu'il nous bénira et qu'il nous aidera à entrer dans la terre promise. Il en est de même pour l'Église. Jésus a dit, sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. Pendant que nous nous préparons à entrer un jour dans la gloire, Dieu nous a aussi fait certaines promesses sur lesquelles nous pouvons compter. Il a non seulement promis d'être avec nous, mais de pourvoir à nos besoins. Tout comme il a nourri les Israélites dans le désert, en leur donnant la manne, il promet d'être avec vous, d'être avec moi, de pourvoir à vos besoins et de pourvoir à mes besoins. Si nous mettons en pratique sa parole et si nous nous préoccupons d'abord de son royaume et de la vie juste que Dieu demande. Il y a toujours des conditions promesses de Dieu, toujours. Non seulement Dieu a promis de pourvoir à nos besoins, d'être présent jour après jour avec nous, mais il a promis de faire de nous un peuple saint. Il a mis à part Israël pour en faire un peuple saint, et quand il nous a sauvés, il a choisi de faire la même chose pour nous. Il a fait de nous des nouvelles créatures, dit l'apôtre Paul. et nous ne sommes plus appelés à vivre comme le monde, puisqu'en étant maintenant unis à Jésus-Christ, nous pouvons être différents, parce qu'il nous a rendu capables d'être différents, pardon, et l'Esprit qui habite en nous nous donne la capacité en Jésus-Christ d'être différent de ce que le monde est pour l'instant. Pour l'instant, depuis toujours. Donc, il s'attend à ce que nous vivions d'une vie nouvelle. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste, pour nous faire régner avec lui. Si vous voulez vous amuser avec Apocalypse, eh bien, on est dans le chapitre 21. La nouvelle terre et les nouveaux cieux sont là. Et pourtant, il y a des nations qui vont entrer dans la nouvelle Jérusalem et rapporter les fruits de leur travail devant le trône de la grâce de Dieu. D'où viennent ces nations? C'est intéressant, hein? C'est intéressant. C'est dépendant de votre position théologique. Si vous pensez que c'est pendant la grande tribulation, eh bien, vous avez un problème parce que déjà la nouvelle terre et les nouveaux cieux sont là. Alors, c'est intéressant de faire des petites recherches et de voir que Dieu nous appelle à régner avec lui, à régner. Et je l'ai déjà dit, Dieu est prêt à s'enlever de son trône, à dire, Jacques, assieds-toi. Ouais. Règne avec moi, Jacques, c'est incroyable. Hein? Règne avec moi, Nathan. Règne avec moi, Hélène. Ouais. Vous imaginez? On va régner avec lui. Parce que, pas sur la base de ce qu'on a fait, mais sur la base de ce que Christ a fait. Amen. Ceux qui décident de faire confiance au Seigneur par la foi constateront aussi que Dieu peut les combler au-delà de ce qu'ils espéraient. Le psalmiste disait à son époque, « Merci au Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. » Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire. Qu'il remercie donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des êtres humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif et ceux qui mouraient de faim. Il les a comblés de tout le nécessaire. Non seulement Dieu a promis de pourvoir nos besoins, de faire de nous un peuple saint et de nous combler de tout le nécessaire, mais il a promis aussi de veiller sur nous. Dieu a fait ce qu'il a promis et il a conduit Israël en toute sécurité dans la terre promise. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre en chemin, frères et sœurs. Il a fait pour nous ce qu'il a fait pour Israël. Il les a fait sortir d'Égypte pour les conduire dans le pays qu'il voulait leur donner, comme il avait promis à leurs ancêtres. Frères et sœurs, il nous a sauvés dans le but de régner avec lui. Pour y arriver, c'est lui qui dirige nos pas pour nous conduire en toute sécurité au paradis. Il a promis de veiller sur nous, et c'est ce qu'il fait, et vous pouvez vous décharger de lui, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons-lui notre reconnaissance en le servant d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et avec crainte. Frères et sœurs, je suis en train de lire le livre d'Hébreux. Jésus, il est écrit que Jésus a appris l'obéissance dans son 100% homme à travers la souffrance. Si le Père n'a pas épargné Jésus dans son 100% homme pour l'amener à l'obéissance dans la souffrance, frères et sœurs, si vous lui appartenez vraiment, Dieu vous fait passer à travers le feu pour vous purifier, pour me purifier, pour que nous puissions lui rassembler. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne nous épargnera sûrement pas si on lui appartient. Je pense que c'est dans Hébreux chapitre 7. Le Fils a appris l'obéissance à travers la souffrance. Dans son 100%. Quand Horab a entendu l'invitation de Moïse la première fois, il a répondu non. Je préfère retourner dans mon pays, dans ma famille, verset 30. Mais lorsque nous lisons le livre des Juges, nous constatons qu'il a fini par changer d'idée. Il a quitté la ville de Jéricho et il est écrit avec les hommes de Juda pour s'installer dans la partie méridionale du territoire de Juda. Donc, Obab a dit non une première fois, mais il s'est joint au peuple de Dieu par la suite. Et ça, je trouve que c'est un message encourageant pour nous, parce qu'il nous arrive de rendre témoignage de Jésus-Christ à des gens qui nous disent non une première fois, non une deuxième fois, mais qui, au fil du temps, peuvent à méditer ce qu'on leur a dit, et avec le travail du Saint-Esprit, vont finir par dire oui. Alors, si Dieu ne se décourage pas, ne s'est pas découragé avec nous, moi j'ai pas dit oui la première fois, si Dieu ne nous a s'est pas découragé avec nous, à combien plus forte raison on ne doit pas se décourager pour annoncer l'Évangile à nos enfants, à d'autres aussi. parce que ça tombe quand même pas dans l'oreille d'un sourd. Quand la parole elle est annoncée, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. C'est la parole de Dieu. Et les gens ont besoin d'entendre non pas nos paroles, mais la parole de Dieu. C'est elle qui fait son effet, c'est la parole qui sauve. Et c'est celui qui est la parole qui agit dans la vie des gens. Nous savons donc qu'Hobab a finalement accepté l'invitation de Moïse de se joindre au peuple de Dieu et qu'il a été béni avec Israël comme Moïse le lui avait promis. À cette époque, Dieu a invité Hobab à se joindre à son peuple à travers Moïse en lui disant « Viens avec nous ». Et aujourd'hui, à travers le Seigneur Jésus, il te lance la même invitation devant cette salle ce matin. Si tu n'es pas sauvé, viens avec nous. Viens avec nous au paradis. Joins-toi à l'Église. Joins-toi au Seigneur Jésus-Christ pour avoir cette espérance, pour être bénéficié de toutes ces promesses que Dieu garde pour ses enfants dans sa parole. Viens à moi, toi qui es fatigué de porter un lourd fardeau, et je te donnerai du repos. Prends sur toi mon joug et laisse-moi t'instruire, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras le repos pour toi-même. Le joug que je te donnerai, dit Jésus, est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur toi est léger. Et frères et sœurs, quand on prend conscience que c'est l'œuvre de Dieu, que le privilège qu'on a de participer à l'œuvre de Dieu, le fardeau, il est tellement léger. Le joug, il est tellement peu difficile à porter, frères et sœurs. Mais quand on essaie de travailler par nos propres forces, on est écrasé à un moment donné. Mais le Seigneur, il est clair ici. Le joug que je te donnerai est facile à porter, le fardeau que je mettrai sur toi est léger. Parce que c'est Christ qui porte, c'est lui, c'est Christ qui nous porte sur ses épaules dans l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Extraordinaire, non? Ouais. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Et j'aime bien la français courant, parce que la français courant dit, sachez-le, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Sachez-le, je veux que vous le reteniez. Viens, car je ne mets pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Jésus a dit, il n'a pas dit, écoute, si tu as fait tel péché, ben tu risques d'être disqualifié. Il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Frères et sœurs, nous, on peut faire des classes de gens qui sont dignes d'accepter l'Évangile ou d'entendre l'Évangile, mais le Seigneur ne disqualifie pas personne. Il sait qu'on est tous pécheurs au point de départ. Et il n'y a pas de plus petit puis de plus grand péché pour le Seigneur. Alors, il n'y a personne qui est disqualifié pour accepter et recevoir ce salut. Il est offert à tous. Chers amis, viens Jésus, sois sauvé, viens avec nous alors que nous servons le Seigneur. Il te bénira et il nous bénira par ta présence. Viens avec nous alors que nous avançons toujours dans ce que le Seigneur réserve pour cette Église. Il a un plan pour vous. Vous pouvez soit y aller volontairement et être béni, ou vous pouvez dire non et continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait et passer à côté de toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Et je vais vous dire ce que je dis souvent à quelqu'un, à des gens, parce que je me suis dit à moi-même, le jour où vous allez accepter le Seigneur Jésus, si ce n'est pas votre cas, encore ce matin, le jour où vous allez l'accepter, vous allez regretter de ne pas l'avoir accepté avant. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés que vous n'auriez pas commis. Et le Seigneur, ce matin, vous lance la même invitation, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Viens te joindre à mon peuple. Viens bénéficier des promesses que je lui ai données. Viens recevoir les bénédictions que j'en réserve pour lui. Et c'est gratuit. Amen.